Fond de noir, deuxième partie. Deuxième interview, enfin entretien.
Et je dirais salut à toi, salut au mon frère, Marin Loda. Bonsoir, Marin.
Bonsoir.
C'est pas une manière cavalière de vous saluer en vous disant salut au toi, au mon frère. C'est tout simplement pour parler du titre de votre dernier roman qui vient de sortir à la Série Noire. On va faire une mini bibliographie, mais très, 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 très courte. Premier roman il y a 11 ans, c'est ça, en 2007?
2007, exactement.
Et les deux derniers romans, qui s'appelaient respectivement En douce, paru en 2016, Ils ont voulu nous civiliser, paru en 2017, étaient parus chez Flammarion. Mais aujourd'hui, on va parler de Salut à toi, ô mon frère, série noire, avec une magnifique couverture, une jolie nana avec des cheveux roses absolument magnifiques. Donc, je vais commencer par le thème, parce qu'on ne va pas raconter les histoires. Vous nous avez donné l'habitude, depuis les début de scruter notre société et d'en révéler sous différentes formes ses travers et ses gros défauts. Et ici, c'est à travers les yeux d'une famille. Alors j'aimerais que vous nous présentiez un petit peu cette famille.
Alors cette famille, la famille Mabille Ponce, qui est animée par une mère infirmière qui s'appelle Adélaïde, une mère infirmière anarchiste qui a pour principe de dire non. Et toute la famille est construite autour de ce nom que j'avais travaillé un petit peu dans mes romans jeunesse et que j'avais vraiment envie de développer, mais cette fois-ci dans la joie et la bonne humeur, toujours autour de thèmes, autour d'une critique sociale, cette fois-ci plutôt une critique sociale du quotidien. Mais l'idée, c'était de travailler autour de l'idée de résistance. De résistance à la connerie ambiante, de résistance à l'air du temps, de résistance à toutes ces petites concessions qu'on fait quotidiennement quand on va faire ses cours dans la rue, avec son collègue de bureau, avec un patron qui est un peu vachard. Et cette famille, elle a pour principe de dire non, par principe, de dire non à la bêtise, quoi. Voilà. Et donc j'ai construit cette famille-là, qui est une famille nombreuse, qui ressemble par bien des aspects à celle dans laquelle j'ai grandi, au moins par le nombre, parce qu'il y a six enfants, deux chats, un chien, et puis voilà, et puis autant de différences, des enfants qui sont nés de l'union de leurs parents, trois enfants adoptés qui sont des enfants colombiens, et tout ça crée un joyeux mélange qui donne salut à toi mon frère.
Et le narrateur, plutôt la narratrice, elle s'appelle Rose, elle adore sa famille mais des fois elle l'agace profondément. Donc, elle c'est par son biais, par ses yeux, pardon, qu'on va découvrir petit à petit tous les membres, y compris les chats et le chien. Et on va découvrir aussi autre fils, Gus, qui lui a pas de peau, a pas de chance, c'est sur lui que tombent tous les ennuis. Qu'est-ce qui lui arrive au début de ce roman, Gus ?
Alors Gus, c'est le petit dernier, c'est un petit peu comme chez Malocène, c'est le bouc émissaire, c'est le plus basané, Gustave donc, qui est tellement bon que tous les ennuis lui tombent dessus et en fait il est mêlé, alors je révèle rien, c'est le début de l'histoire, il est mêlé un peu malgré lui au braquage d'un bureau de tabac et donc il est enlevé, il disparaît et toute cette famille va partir à sa recherche avec ses moyens, avec la légèreté des codes du polar un petit peu de série B pour à la fois le retrouver et puis à la fois en profiter pour saper un petit peu toute cette petite bourgeoisie de province bien pensante.
Vous avez prononcé un mot tout à l'heure qui correspondait à la question que je voulais poser maintenant, c'est ce mot de résistance. C'est-à-dire qu'en fait, on va de manière souvent cocasse voir comment chacun des membres de la famille, de manière différente, parce qu'évidemment, ils ont tous des caractères différents, comment ils vont résister et essayer de prouver au monde entier, et tout au moins à la petite ville de Tournon-sur-Rhône, que Gus est innocent. Donc chacun va y aller à sa manière, au combat.
C'est ça, c'est vraiment tout un tas de personnages qui gravitent autour de Rose, donc le personnage principal qui a 21 ans, qui est assez jeune, hein, qui est une jeune étudiante en lettres modernes et en lettres classiques, et puis de la figure de la mère Adélaïde, qui est une infirmière qu'on devine franchement anarchiste et libertaire, et qui sont tous construits autour de cette idée de l'anti-soumission, quoi. C'est vraiment ce qui m'intéressait de travailler dans ce roman, c'était cette idée de comment on ne se soumet pas, y compris dans le quotidien. Alors il y a les grandes batailles qu'on peut mener syndicalement, politiquement, etc. On est vraiment là dans l'atome, la molécule la plus petite du collectif, celle qui est celle de la famille, et je vais développer dans ce roman vraiment cette idée de solidarité au point le plus fort, quoi. Voilà. Alors évidemment, hein, je sais pas si c'est très représentatif de ce que c'est une famille, mais l'idée c'était vraiment de développer l'atome le plus petit de la solidarité, le départ en fait finalement de l'endroit de départ où on commence à construire des liens de solidarité et qu'ensuite on va pouvoir développer dans sa vie, quoi.
Alors c'est vrai que vous parlez d'atomes, il y a beaucoup d'électrons libres. Alors en tant qu'écrivain, vous avez la licence d'inventer, d'accoquiner vos personnages avec qui vous voulez. Donc on s'amuse, vous vous amusez à mettre Adélaïde avec son mari qui est un clerc de notaire. C'est pas très, excusez-moi du terme, c'est pas très bandant au départ, le clerc de notaire. Mais il est charmant ce Charles. Et puis... drame de la famille, enfin on n'en sait pas encore trop, est-ce que ça va être un drame ou pas, Rose tombe amoureuse d'un policier. Alors ça...
Ce qui fait pas vraiment plaisir à sa mère, ce qui va faire encore moins plaisir, enfin il me l'a dit d'ailleurs, à Jean-Bernard Pouy qui déteste qu'on mette des policiers comme ça.
Jean-Bernard Pouy qui est un de nos grands auteurs de romans policiers aussi.
Voilà, c'est ça, ça l'a beaucoup agacé, il me l'a confié la dernière fois qu'on s'est vu. Je trouvais ça marrant moi d'accoler cette famille anarchiste libertaire à ce flic qui s'appelle Personne.
C'était la prochaine idée, mais son nom est Personne quand même, donc...
Donc, elle tombe amoureuse d'un lieutenant de police qui s'appelle Personne, ça m'a beaucoup fait rire.
Oui, c'est le cas des lecteurs aussi qui rient beaucoup dans ce livre par ses gags, par les dialogues. Alors on sent que vous avez, par rapport à d'autres romans précédents que j'ai lus, vous avez beaucoup axé la narration sur les dialogues. Évidemment, il y a 8 personnes qui parlent dans la famille, plus ceux qui accusent Gus, plus ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Vous vous amusez dans des dialogues homériques, dans des choses vraiment des fois foutraques et des fois géniales. Entre par exemple la sœur en rose et sa sœur qui essaye désespérément de réviser son bac, il y a des scènes absolument hilarantes, on va dire.
Bah, vraiment le principe c'était déjà de m'amuser en essayant d'amuser le lecteur et puis de faire un peu mon métier. Ça fait 11-12 ans que j'écris des romans et parfois avec des histoires un peu resserrées, très romans noirs, très construites, très sobres, assez. Mes derniers romans étaient des romans plutôt écrits à l'os. J'avais envie aussi de me lâcher un petit peu dans l'écriture et de jouer avec les mots et de pratiquer un peu ces jeux littéraires. Je reviens encore à Jean-Bernard Pouille, toujours Jean-Bernard Pouille, sur le principe un petit peu des papous. Et j'ai eu l'occasion d'être invité depuis maintenant 7-8 ans à un festival magnifique et merveilleux qui s'appelle Les Nuits Noires d'Aubusson et qui fait jouer les auteurs à des amusements littéraires le vendredi soir en fin de festival. Ça a été un exercice difficile pour moi parce que je suis plutôt dans un registre assez noir et l'idée c'est de s'amuser, de faire rire les gens et d'essayer d'exploiter un petit peu la veine littéraire, le travail sur les mots, le travail sur la langue et du coup c'est à la fois m'amuser vraiment d'un point de vue littéraire, en même temps c'est aussi ça le roman noir, c'est-à-dire que le roman noir c'est pas juste des histoires dures, des histoires violentes, la violence elle peut aussi être décrite à travers par l'humour en fait, qui permet de pas être trop didactique, qui permet de pas forcément être toujours dans quelque chose de sombre et voilà, et donc se faire plaisir et en même temps c'est un clin d'œil au roman noir, c'est un clin d'œil à cette communauté du roman noir qui m'a adopté depuis 11-12 ans maintenant et qui est une communauté très solide dans ses convictions en règle générale, qui pense que la culture a du sens et qui en même temps sait s'amuser et sait être dans la fête et la résistance et la lutte c'est aussi quelque chose qui doit être festif et donc ce roman là c'est un peu sur ce principe là que j'ai fait.
Et puisqu'on a apparemment pris le jeu de citer le plus possible Jean-Bernard Pouy dans cette partie d'émission, Jean-Bernard Pouy sait parfaitement utiliser de l'humour dans ses romans, justement. Vous l'utilisez dans les dialogues. Il y a des formules qui pourraient devenir cultes. J'en ai retenu une qui m'a beaucoup fait rire parce que j'ai une partie de ma famille qui est de l'Est de la France. Ferdinand, donc un des nombreux personnes qui tournent autour, est végétarien depuis qu'il a vécu 2 ans avec une végane. Une sorte de compromis avec sa petite amie précédente qui était alsacienne. Ça, vous allez vous faire des amis là-bas.
C'est vraiment tordre. De cadeaux à personne, m'amuser avec tout et voilà, et profiter de tous ces personnages de cette famille qui sont composés encore une fois de personnalités complètement différentes. Imaginez la sœur de Rose, Camille, avec cette mère anarcho-libertaire qui essaie d'être habillée à la mode, qui veut faire comme tous les jeunes de son âge, avoir un téléphone portable et porter des marques, et c'est pas possible, et donc du coup c'est l'occasion de créer des face-à-face comme ça, des espèces de dialogues un peu absurdes entre les personnages.
Et puis, alors on va terminer par une dernière question, parce qu'on va aborder quand même des sujets très sérieux qui sont derrière cette magnifique histoire de famille. Il y a aussi le comique de situation, et je ne peux pas ne pas évoquer la pauvre Rose qui se trouve clouée avec des coliques néphrétiques dans une chambre d'hôpital. Donc là, il y a des scènes absolument délirantes, carrément délirantes, avec un vieux papier à côté. Ça sent un petit peu le vécu, non ? Je suis désolée, là, mais je peux pas ne pas poser la question.
Ils m'ont rapproché des services urologie des hôpitaux de la région dans laquelle je vis. Mais du coup, voilà, c'était une fois de plus m'amuser là-dessus et puis de poursuivre un peu. Alors la particularité de Rose, c'est que c'est une étudiante en lettres qui pense que la culture est accessible à tout le monde. Alors c'est quasiment une hérésie par les temps qui courent. Normalement,
c'est
voué à une élite, la vraie littérature. Et elle pense que la littérature, on peut la mettre partout. Elle a développé un concept un peu fumeux, mais que je trouve très agréable et très délicieux, de culture et coiffure. Et donc elle se retrouve à l'hôpital et donc forcément elle va essayer de développer ça avec les petits vieux qui se retrouvent avec des calculs à la prostate. C'est pas la prostate les calculs, c'est au rein, et puis j'ai oublié le...
Les reins, dans l'urètre, voilà, donc il y a plein d'endroits, mais bon, on va pas épiloguer sur notre physiologie. Non, c'était pour montrer un petit peu le comique de situation. Alors justement, on va revenir par contre au thème sérieux du roman, parce qu'il y en a, vous développez plein de choses. J'ai dit au début que vous aimez à nous montrer par des voies très diverses les travers de notre société. Donc cette idée de culture, alors Rose, c'est une littéraire, le livre il fourmille de références, et je trouve qu'on est là au cœur de la culture littéraire, de la du populaire, dans le sens le plus noble du terme. Toute cette famille, elle jongle avec ses goûts, ses couleurs. Alors les uns, c'est du hip-hop, les autres, c'est du rock, il y a même du jazz. Et puis, en littérature, on va passer de UNESCO à des choses beaucoup plus légères. Et là, voilà, ça explose de culture populaire et ça donne un très joli ton populaire à ce roman, je trouve. C'était une intention, je pense.
C'est l'idée de jongler. La culture, c'est quelque chose de très très vaste, qui va de choses très intelligentes à des choses qui sont plutôt du registre de l'émotion, et là c'est un roman qui s'intéresse notamment à la question qui dénonce, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais qui porte sur la question du racisme et de l'intolérance, et voilà, qui est un sujet qui est toujours d'actualité. Et donc on peut passer de Rhinocéros de UNESCO à
Brigitte Bardot,
à dénonciation du totalitarisme, à de l'autre côté Salut à toi mon frère, la chanson des Bérus. Le point de départ du roman, c'est vraiment ça. Moi, j'avais 15 ans dans les années 80. Je me souviens des chansons Porcherie, La jeunesse en l'air de le Front National, qui étaient des hymnes pour la jeunesse. Et 30 ans après, la jeunesse, une partie de la jeunesse vote Front National. La jeunesse, elle est dans les centres commerciaux, elle est adepte de la marque. Alors évidemment, il y a aussi une jeunesse en résistance, ça, je l'oublie pas. Mais du coup, voilà, c'est 30 ans plus tard, le combat est toujours à mener, et c'est toujours, malheureusement, c'est pas du tout le monde que j'imaginais quand j'avais 15 ans. J'imagine que c'est le propre des jeunes de 15 ans, hein, c'est d'imaginer que demain sera meilleur. Mais voilà, et donc cette famille, elle est porteuse de... Elle est toujours dans... C'est une famille d'aujourd'hui, et à la fois, ça aurait pu être une famille des années 80, quoi.
Et justement, vous abordez ce problème de racisme, ce problème de fond, que ce soit en France ou ailleurs. Donc, dans cette petite ville, c'est déjà un endroit particulier. Et la subtilité, je trouve, la très jolie subtilité de ce roman, c'est de montrer le racisme à travers le biais d'une famille où il y a des enfants, excusez-moi de l'expression, mais bien blancs, qui sont les enfants d'Adélaïde et de Charles. Et puis, ils ont adopté trois petits Colombiens qui, forcément, on s'en doute un peu, sont un peu basanés. Ben, selon quel est le membre de la famille, ils sont de la même famille, ils portent le même nom de famille, mais selon la coloration de la peau, ben, les notables alentours, les gens alentours ne les voient pas vraiment de la même manière, ces enfants.
Ouais, c'est un racisme ordinaire que je connais bien parce que j'ai grandi dans une famille multiculturelle, multiethnique. J'aime pas bien ces termes, mais bon, voilà, c'est pour éclaircir les choses. J'ai moi-même poursuivi dans cette voie saugrenue, et du coup, c'était de montrer vraiment, encore une fois, au niveau moléculaire, atomique, de la petite vie du quotidien, de comment s'installe le petit racisme. Et je me souviendrai. C'est une des phrases du roman, d'ailleurs j'ai repris cette anecdote d'un de mes petits frères qui un jour se faisant traiter de sale arabe alors qu'il est colombien, n'a pas compris, alors c'était vraiment un enfant, il n'a pas compris pourquoi on le traitait de sale arabe, parce qu'il n'était pas arabe, il ne comprenait pas l'insulte, il ne comprenait pas que l'étranger c'est au sens très très large du terme, quoi, et que l'étranger c'est juste la couleur de peau, c'est juste la différence, et encore une fois j'enfonce des portes ouvertes, mais malheureusement on avance tellement pas sur ces questions que je me dis que voilà, il faut toujours essayer de développer, essayer de l'incarner et de continuer de travailler à dénoncer.
La bête immonde n'est pas loin. La bête immonde n'est pas loin.
Exactement, elle est pas loin et elle se niche jusque dans les supermarchés et jusque dans la publicité et voilà, et il faut. J'ai pas de solution, mais il faut continuer de...
Si, continue à écrire, Marin, continue à écrire. Justement, il n'y a pas de solution, en particulier dans les clichés de ces petites villes où finalement il y a des castes, et selon le quartier où on habite, selon le nom de famille que l'on porte, selon qu'on est fils de mère ou fils de famille, voilà, de l'infirmière anarchiste, eh bien, de toute façon, on n'est déjà pas vu de la même manière, c'est évident.
Ouais, c'est sociologique, c'est statistique, et donc la seule solution que je propose dans le roman, mais on peut se le permettre dans un roman, hein, c'est précisément la résistance et la solidarité, parce que il y a que de là que peut naître quelque chose de positif, quoi. Et ces solidarités qui sont perpétuellement cassées, perpétuellement abîmées par de l'individualisation, par des lois uniques, par tout un processus qui vise à mettre les gens chacun de manière isolée dans leur coin. Cette famille, de manière assez étonnante, une famille nombreuse qu'on imagine habituellement très catholique, très très réactionnaire, elle nous propose un principe de solidarité. Mais c'est une famille, mais c'est plus qu'une famille, c'est une tribu. C'est-à-dire que ça peut être un groupe d'amis, ça peut être un quartier, ça peut être un mouvement, ça peut être une association. C'est au-delà du principe de famille, quoi.
Il nous reste juste une minute. Le thème aussi, moi qui m'a interpellée, parce que c'était peut-être un questionnement qui ne m'était jamais venu à l'esprit, c'est les bonnes et mauvaises raisons pour adopter des enfants. Et je trouve que Adélaïde et Charles ont évidemment les bonnes raisons, mais vous pointez du doigt cette espèce de charité, ces mauvaises raisons qui font que finalement il y a de très mauvaises adoptions.
Ouais, c'est, alors là, en une minute, on va avoir du mal à faire, à décortiquer le principe de l'adoption. Et voilà, et au départ, il y a l'amour. Je pense que c'est une constante. Et que les gens qui adoptent et qui se lancent dans une procession d'adoption sont des gens qui ont envie d'aimer, qui ont besoin d'amour et qui sont prêts à en donner, je pense. Parce qu'on passe pas 4-5 ans dans des procédures juste sur un coup de tête, ça c'est sûr. Après, il y a la réaction de l'entourage qui comprend pas forcément ça, qui voit ça dans un espèce de principe un peu judéo-chrétien, de la charité, débarras, c'est bien d'aller adopter les enfants dans la misère, etc. Et en fait, c'est pas si simple que ça. Et ces personnes qu'on adopte, elles ont une histoire, elles ont des particularités, elles ont aussi une culture qui a déjà commencé à les structurer quand elles ne sont pas forcément adoptées jeunes, ce qui n'est pas le cas des enfants dont je parle dans le roman, qui ont été adoptés à des âges où on a déjà bien commencé à
construire. Je suis obligé de vous interrompre, Marin. Je suis vraiment désolé, mais notre émission touche à sa fin. Donc je vous remercie infiniment. Et puis j'engage tout le monde à découvrir cette magnifique famille dans Salut à toi, ô mon frère, à la série noire chez Gallimard. Et je rappelle, Marin Le Dain en est l'auteur. Et on espère bien retrouver très vite cette famille auquel je suis très attachée maintenant. Merci beaucoup, au revoir.
Merci.
On se retrouve dans la prochaine émission, chacun dans son coin, avec un bon bouquin.